Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio 98 FM. C'est l'émission Femmes en Lumière qui commence. Laetitia et Myriam avec vous. Une émission qui vous présente des femmes de tous horizons et des personnalités atypiques, toutes plus inspirantes les unes que les autres. Via un témoignage à cœur ouvert, ces femmes de notre région et d'ailleurs vous partagent ici leur histoire. Une émission en deux parties, avec tout d'abord la découverte de notre invité, son parcours et ses aspirations, puis une réflexion plus large sur la place des femmes dans l'évolution de notre société.
Et oui, aujourd'hui, dans l'émission Femmes en Lumière, nous avons le plaisir d'accueillir Aurélie. Professeure des écoles depuis 2009, elle consacre sa vie à enseigner, à entourer les enfants des autres avec patience et passion. Mais derrière ce bonheur professionnel, il y avait un rêve plus intime, plus ancien, celui de devenir maman. Un rêve longtemps remis à plus tard, et puis un jour, elle s'est dit, ça y est, c'est maintenant. En 2022, portée donc par une force tranquille et une envie immense, elle décide de faire un bébé toute seule. Une aventure singulière, courageuse, parfois rude, entre PMA, montagnes russes émotionnelles, doute et résilience, jusqu'à ce jour d'avril 2024, où la petite Ella est arrivée.
Bonjour Aurélie.
Bonjour.
Alors dis-nous, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots?
Donc je m'appelle Aurélie, comme ça a été dit, je suis professeure des écoles, maman solo, j'habite à Cergy, et après, je ne sais pas, faut que je dise...
Non, juste tu nous as dit les grandes lignes de ta vie, donc maman solo, professeure des écoles depuis 2009, et donc tu as entamé ce parcours de PMA en 2022. Alors, dis-nous, est-ce que tu peux nous raconter ce déclic de 2022, ce moment où tu t'es dit, c'est maintenant ou jamais, je vais faire ce bébé toute seule?
Alors ça a commencé d'abord parce que je me posais la question, j'arrivais pas à trouver quelqu'un et je me posais la question de me dire quand on rencontre quelqu'un pour être maman, ça passe par un couple et je me suis dit pourquoi pas déjà voir pour congeler mes ovocytes puisque l'âge avançant, il faut voir peut-être que ce serait plus possible. Donc voilà, donc j'ai fait une prise de sang et ça permet de voir la réserve ovarienne. Et la réserve ovarienne, après, c'est ce que toute femme a. Et en fait, on est inégale par rapport à ça. Donc, ça veut dire qu'elle décroît, mais c'est pas l'âge qui va faire, c'est chaque personne, ça va décroître plus ou moins rapidement. Et c'est comme ça. Et donc, en 2022, je me dis, je fais la prise de sang pour voir ce qu'il en est. Et après, je pars dans l'idée plutôt de congeler mes ovocytes pour après, quand je rencontrerai quelqu'un, avoir un bagage d'ovocytes viable.
Alors, rappelle-nous, tu avais quel âge en 2022?
2022, je suis de 1983, donc j'avais 39.
39 ans, ok.
Et prise de sang, résultat. Pour la faire petite histoire, c'est que j'étais en sortie scolaire. On avait une journée toute pluvieuse, c'était le vendredi 24 juin, je crois. Il pleuvait, il a plu toute la journée, ou le 25, on est rentré le soir, je me sentais fiévreuse, je crois que c'était à cause de la fièvre. En fait, non, c'était à cause de la sortie, mais non, c'était parce que en fait c'était Covid. C'était l'époque après où la première fois où j'avais le Covid. Et le soir tombe le résultat de la prise de sang. Et en fait, j'ai eu une première montagne russe émotionnelle, puisqu'en fait j'ai vu le 3, en sachant que j'ai des amis qui sont dans un parcours PMA, donc je connais les taux un peu.
Est-ce que tu veux nous les rappeler, parce que du coup, pour ceux qui n'y connaissent rien, c'est quoi les taux moyens en fait de
Déjà à 3, on est sur le bas. Mais d'accord. À partir de moins de 1, donc 0,5, c'est quasiment, il reste plus rien en fait. D'accord. Et en fait, moi, quand j'ai lu le taux, j'ai vu d'abord, parce que c'est toujours quand on a des résultats de prise de sang, on a toujours en milligrammes par mol ou des choses comme ça. Mm-hmm. Et en fait, il y a toujours deux résultats. Et en fait, le premier, j'ai vu 3, donc j'ai dit, super,
ça va.
Jusqu'après, je disais, non, en fait, il y a un petit taux là, 0,5. Et donc, j'ai regardé sur Internet, et là, je me suis rendu compte que le taux était extrêmement bas. Et je m'y attendais pas, puisque une amie qui a fait un parcours similaire, mais qui était plus âgée que moi, avait un taux plus élevé encore que moi. D'accord. Donc là, c'est douche froide. Et là, je me dis, en fait, dans ma tête, c'était un déclic de, faut prendre une décision sur si tu veux être maman, va falloir trouver une solution. Et entrer dans un parcours où en tout cas ce sera pas
ce sera pas aussi facile,
ce sera pas congeler ses ovocytes, rencontrer quelqu'un, voilà. Le comme si le compte à rebours avait commencé un peu comme le 24 heures chrono.
Et alors juste donc toi tu étais à 0,5. Est-ce que tu te souviens des fourchettes en fait, à partir de combien on est considéré comme ayant une réserve d'ovocytes pour ces femmes qui nous écoutent?
Non,
tu sais plus.
Trois,
en tout cas, ça paraissait correct.
Trois, c'est encore correct. C'est sur, ça décline, mais c'est encore correct.
D'accord.
Mais 0,5, c'est déjà parce qu'en fait, j'ai fait une prise de sang. Et pour la petite histoire, j'ai dû refaire une prise de sang au mois de septembre, par rapport à quand je suis rentrée dans le parcours, et j'étais déjà à 0,2.
Ah oui.
Donc ça veut dire que sur la fin, en plus, ça va beaucoup plus rapidement.
Après moi, voilà. En fait, tes réserves.
Et en fait, après, c'est juste qu'une fois qu'on n'a plus d'ovocytes viables, en fait, on peut pas être porté, enfin un bébé, on peut pas avoir un embryon, tout ça, en fait.
Ok. Et alors, est-ce que tu peux nous parler de ce vide avant Ella, d'où t'es venu en fait ce manque profond d'être mère, parce qu'on se dit à 39 ans, avant même de savoir que t'avais pas de réserve d'ovocytes, pourquoi cette envie d'être maman?
Après, je pense que c'est
viscéral.
J'ai toujours voulu, maman en tout cas, je sais que j'ai des amis où je connais des personnes qui n'ont pas forcément cette envie-là, et moi j'avais l'envie
Depuis toute petite, hein, tu joues à la poupée,
Après, petite, je sais pas, mais après en tout cas depuis la vingtaine d'années, et je me voyais même maman jeune, et finalement je me retrouve à l'inverse, maman, voilà ça, mais l'envie, et en fait pas les bonnes personnes rencontrées, pas le bon timing. Et puis après, il y a toujours ce côté, je vais rencontrer, et puis j'étais toujours dans l'optique de me dire, j'attends parce que je pourrais rencontrer, et voilà,
tu voulais prendre le temps de rencontrer la personne,
oui, c'est ça.
Vivre avec la personne, et puis après ça, de le faire naturellement finalement.
Oui, c'est ça.
Dans cet objectif-là.
Et donc c'est pour ça que ça, même la prise de sang, j'y avais songé un petit peu pour voir la réserve, mais ça avait, j'attendais en me disant, on décale. Jusqu'à ce que là, en fait, il n'y ait plus un peu le choix, entre guillemets, parce que... Où là, la question s'est posée, si tu veux être maman, va falloir trouver, faut trouver comment, et ça va induire, quitte à pas être en couple.
À pas être accompagné, à ce qu'il n'y ait pas forcément de papa, et à le faire, seul. Donc, ça suppose quand même une force particulière, quoi. Ça veut dire qu'il y avait vraiment ce besoin d'être maman, t'as porté finalement plus que tout. Qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce que ça suppose comme force pour se lancer comme ça dans un parcours tel que celui-là de PMA?
Niveau psychologique, c'est dur parce qu'on passe sur le fait, mais ce que toute personne peut passer, par contre, au niveau de la PMA et de fait de faire au niveau les stimulations ovariennes, pardon. Et le fait de, moi c'était les infirmières au début, mais de se piquer, du coup, de s'injecter des produits.
De médicaliser le process, en fait.
Oui, c'est ça.
Ouais. Le côté tu peux nous raconter les grandes étapes rapidement, tu vois, une PMA, les grandes étapes d'une PMA, c'est quoi, en fait? Qu'est-ce que ça suppose, déjà, dans un premier temps? Donc, on analyse déjà, on voit un petit peu la réserve d'ovocytes, où on en est.
C'est ça.
Ensuite.
Après, il y a décision de, si on passe par, ça peut être juste stimulation ovarienne et insémination.
D'accord.
Donc ça peut être et ça peut être un couple aussi où c'est avec le sperme qui est ramené. Et l'insémination, c'est juste une stimulation qui fait que ça va être plus facile au niveau de l'insémination et de prendre. Mm-hmm. Si c'est pas le cas, après il y a les FIV, ce qui fait qu'on récupère les ovocytes, les follicules et le spermatozoïde, et que c'est fait en fait en laboratoire.
En laboratoire à l'extérieur.
Pour permettre de vérifier des fois au niveau génétique, il y a pas de souci. Et en fait pour ça, il faut préparer son corps avec la stimulation ovarienne, qui est un long process. Parce qu'il y a tout un système au niveau du corps où c'est ça, faut s'injecter des produits, des hormones, tout ce qui est hormonal.
C'est ce que tu disais à l'instant.
Après, il y a une ponction qui peut avoir lieu, et la ponction, c'est endormi.
D'accord.
Donc c'est médicalisé aussi.
Ponction,
c'est le fait qu'on ait des ovocytes qui grossissent et qu'on va du coup extraire, récupérer. Et après, dans ces ovocytes, ils voient ceux qu'ils gardent, et c'est seulement après, ou avec le spermatozoïde, ils vont essayer de faire l'embryon.
D'accord.
Ou après, ils attendent. Il y a 5 jours. Pour garder les embryons à J+5, et c'est à partir de là où il reste des viables que peut y avoir après le transfert.
D'accord.
Et en fait, au niveau de tout ce qui est hormonologie, donc le fait de s'injecter, il y a des échographies à faire, donc au niveau du temps. Au début, moi, je suis rentrée dedans et on m'avait pas expliqué toutes les contraintes et oui. Donc en fait, je devais faire un premier rendez-vous avec une échographie, mais trouver à deux jours près, comme ça peut être à un jour ou deux jours près, ça dépend des taux, parce qu'on va faire des prises de sang, donc la prise de sang dit, il faut faire une échographie.
En
France, les rendez-vous, c'est difficile de prendre un rendez-vous, une échographie du jour au lendemain.
Et oui, c'est ça. Donc, parce qu'en plus, il y a des timings à respecter bien précis, parce que sinon.
Donc, au début, je me suis retrouvée avec mon compagnon de l'époque, où il m'avait ramenée à Saint-Germain, parce que j'avais réussi à trouver une gynéco à Saint-Germain pour que ce soit le bon jour par rapport à tout ce qui se passait. Et pour après, prendre un peu l'habitude et anticiper les rendez-vous en disant, je vais avoir, mes règles qui sont là, donc ça veut dire que ça va tomber là au
niveau
de l'ovulation.
D'accord, oui, c'est ça, il y a tout un planning à respecter, un timing à respecter. Et alors là, tu viens de dire, donc tu avais un compagnon à l'époque?
En fait, c'est... au moment où j'ai pris la décision en me disant, je vais voir ce qu'il a, donc j'ai vu un gynécologue en France avec ma réserve ovarienne, et en même temps, en fait, j'ai quelqu'un que j'avais déjà croisé qui m'a contacté. Donc en fait, les deux ont commencé un peu en même temps. Donc ça veut dire
j'ai la relation de couple.
Oui,
et
on n'était pas vraiment ensemble, mais en tout cas le côté on se voit et on se courtise. Et à côté, la décision de rentrer.
Ouais, il y avait le process enclenché.
Donc ça faisait beaucoup de changements, beaucoup de choses d'un coup. Mais au niveau de après du gynécologue en France qui était spécialisé PMA, du coup j'avais une amie qui était passée par lui pour être maman parce qu'elle est au niveau du couple et en fait c'est lui qui m'a dit là votre réserve être maman avec vous vos ovocytes ça va être très compliqué voire nul.
Donc en fait même naturellement en fait là c'était c'est ça en fait qui a été déclencheur couple ou pas couple là de toute façon
c'était compliqué avec mes ovocytes.
Que tu passes. OK. Donc là on comprend que donc tu prends la décision de le faire seul quoi qu'il arrive et donc comment tes proches ont réagi face à cette décision? Tes proches de ton entourage?
Je l'ai amené je pense qu'ils ont vu ma volonté à être maman et je pense qu'ils me voyaient maman aussi, c'est-à-dire de, je sais pas comment je peux être avec mes neveux, nièces ou d'une manière générale. En tout cas, ça paraissait naturel aussi que je puisse un jour être maman.
Et puis on rappelle que t'es une maîtresse aussi, donc forcément.
Donc en fait, c'était pas possible là autrement. En fait, ils m'ont vraiment accompagnée, sur les gens proches, que ce soit famille ou amis. J'ai vraiment été entourée et aidée. Enfin, ils m'ont poussée à tenter. En tout cas, j'ai pas eu un sentiment de qu'est-ce que tu vas faire ou quelle idée ou accompagnée
dès le début. J'imagine que ça doit être super important dans une démarche comme celle-là.
Surtout
d'avoir le soutien.
Qu'ils me disent te soutiens pour ta décision et après. Quand tu viens maman, si c'est compliqué, on sera là, on pourra aider. Pendant et après.
Ouais, c'est ça. Cette perspective quand même de pas être totalement seule. Parce que maman solo, on s'en sort aussi parce qu'on est accompagné. Merci beaucoup Aurélie, c'est le moment de faire une première pause musicale et on se retrouve juste après, à tout de suite.
Elle a fait un bébé toute seule. compter. De la nourrice à la baby-sitter, des paquets de couches au biberon de 4 heures. Et elle fume, 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 même au petit déjeuner.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Nous sommes de retour sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière, l'émission qui met en avant des femmes inspirantes de notre territoire. Aurélie, jeune maman qui a décidé de faire un bébé toute seule, est notre femme en lumière du jour. Aurélie, tu nous as dit précédemment que tu as décidé de te lancer dans ce parcours de PMA, mais qui n'était pas forcément très simple, notamment en France, de prendre des rendez-vous du jour au lendemain. Alors tu m'as confié dans les coulisses que tu as dû partir en Espagne pour élaborer ce parcours. Alors il faut savoir qu'on estime que près de 40% des femmes étrangères venues faire une PMA en Espagne sont françaises. 40% de françaises. À ton avis, pourquoi ce chiffre est si élevé? Et pourquoi c'est si difficile de le faire en France?
Alors en fait, depuis peu, c'est ouvert en France au niveau des femmes solo. Je pense que l'Espagne est à côté, c'est accessible en avion ou en train facilement. Je pense qu'il y a une habitude qui a été prise. Il y avait aussi la Belgique.
D'accord.
Et après, moi, c'était l'Espagne. C'est même le gynécologue, en fait, qui m'a parlé de l'Espagne. Parce que lui, avant, c'était possible, mais avant, il pouvait envoyer des patientes au niveau de... Il avait des contacts au niveau de Madrid. Et donc c'est lui qui m'a parlé l'Espagne en m'expliquant qu'en fait en France, comme c'était tout récemment ouvert au niveau du don de spermatozoïdes ou d'ovocytes, c'était pas encore, il y a pas une banque encore très fournie,
notamment avec la loi bioéthique de 2021, donc c'était tout récent. Toi, ton parcours était en 2022, donc ça venait tout juste de passer.
Il y avait D'accord. le fait aussi de pouvoir entamer le processus en France qui aurait été très long, donc ça repoussait peut-être au fait de pouvoir commencer un an après.
D'accord.
Et donc ça voulait dire aussi, si je voulais tenter avec mes ovocytes d'abord, avant de penser double don, où il m'en avait parlé, en Espagne, ça permettait, moyennant parlant, voilà, en payant quand même, mais d'être plus rapide. Et il m'expliquait aussi que en Espagne, ils ont, c'est des médecins quand même avant tout. C'est pas du commerce.
D'accord.
Ils ont le matériel de pointe qu'en France, il n'y a pas forcément encore. Enfin, peut-être maintenant, mais en tout cas, en 2022, c'était pas encore. Ils étaient au début, donc on n'était pas avec du matériel. Et ils ont le matériel et les compétences, enfin tout associé en tout cas.
Les structures, c'est en fait, pour accueillir les jeunes mamans, voilà. Les futures mamans.
Et pour que ça fonctionne, et en tout cas, c'était lui, c'était là, il m'en avait parlé, et je pense que c'était de fait l'Espagne, c'est parce que c'était ouvert avant en Espagne et qu'en France c'était récent, et le temps de rentrer dans le processus en France, c'est long en fait. On se dit c'est bon, je prends la décision, mais en fait non, le temps de rentrer via l'assurance maladie, que ce soit pris en charge, de trouver gynécologue, en fait ça peut reporter à un an ou deux ans après, parce qu'on peut être sur liste d'attente. Donc à l'époque, c'était pas forcément gage de rapidité.
Bien sûr. Et puis quand on sait que ce que tu nous disais tout à l'heure, que si on veut tester avec ses propres ovocytes, vu qu'il en reste pas beaucoup, plus le temps passe et plus les chances de prendre les siens sont infimes. On parle aussi, donc malheureusement, de tourisme procréatif. Donc tu disais que c'était pas trop commercial, mais on garde quand même ce terme qui est assimilé à l'Espagne, parce que tellement les parcours PMA sont nombreux, et en plus les procédures rémunérées, comme tu le disais, t'as dû payer un petit peu pour rentrer dans ce parcours. Il faut aussi rappeler que le don de sperme est également payant, ce qui n'est pas le cas en France. Est-ce que toi, quand tu étais sur place en Espagne, est-ce que tu as ressenti ce côté business, si je puis dire, ou finalement non? Comment tu as vécu ces voyages?
Non, j'avais vraiment l'impression d'aller dans une clinique avec des gens qui étaient là pour moi, pour m'aider, m'accompagner. Ils ont en plus des traducteurs. Alors moi, je parle un peu espagnol, mais en tout cas, il y a des personnes qui sont là au niveau des mails à l'international et quand on est présent. Et on se sentait vraiment accompagné, et la bienveillance et... Et j'ai jamais ressenti ce côté commerce ou argent, ou non, c'était vraiment, j'allais dans une clinique.
Ou passion à la chaîne, quoi. C'était pas
oui,
à la chaîne,
non.
Il y a eu vraiment...
Non, non.
T'as bien
vraiment clinique et sur bienveillance. Et je suis retournée, pour la petite histoire.
Vas-y, je t'en prie.
En octobre, on a fait un voyage parce que c'était à Alicante. En Espagne, à Alicante, où, pour l'histoire, ma sœur a vécu, donc il y a un côté... passif où on connaît. Donc j'allais là-bas et j'ai été avec ma fille justement pour aller leur présenter. Et je pense que si je retourne en Espagne à Alicante, je retournerai avec elle. Enfin, il y a vraiment un lien en tout cas. Ouais.
Donc t'es retournée là depuis la naissance de ta fille.
Et elles ont rencontré. J'ai la photo pour en plus filmer et qu'elle sache aussi parce que j'en parle depuis. Qu'elle est bébé, elle est pas en âge de comprendre, mais en tout cas, c'est quelque chose dont je parle.
À quel âge elle a maintenant?
Elle va avoir 15 mois. Et quelque chose où j'explique. En tout cas, c'est pas tabou et c'est parlé, c'est dit. Et dès toute petite, donc c'était aussi avoir, elle, la trace de, là, c'est là où, du coup, tu as été créée au niveau de l'embryon et c'est là où on s'est rencontrés, où on a été transférés.
Et combien de voyages tu as dû faire en Espagne pour, durant ces deux années,
j'ai fait trois voyages pour au niveau des trois transferts. Un pour ensuite pour le non pas les transferts pour les pardon pour les trois voyages pour les ponctions.
Mm-hmm. D'accord.
Et ensuite un voyage pour le transfert. Le premier transfert avec mes ovocytes où ça n'a pas pris après avec la prise de sang. Et ensuite quand j'ai pris la décision qui est devenue d'elle-même du double don, j'y suis retournée une dernière fois.
D'accord.
Mais j'ai fait en mode un peu vacances, où je suis là-bas en vacances, et après, le transfert de ce qui a été fait.
On lit l'utile à l'agréable. On essaye en tout cas. Et alors, est-ce que c'est comme aux États-Unis où tu choisis le profil, par exemple, donc tu parlais des doubles dons, est-ce qu'on choisit ses donneurs sur catalogue, ou est-ce que le don reste anonyme? Tu sais, il y a des croyances comme ça collectives. Comment ça se passe?
En Espagne, déjà, contrairement en France, maintenant, et même au Portugal, de ce que j'ai appris, c'est le anonyme, dans le sens où on ne peut pas avoir trace de qui a donné. Et ce qui est plus le cas en France depuis peu, ou maintenant même quand des gens qui font un don d'embryon fécondé ou des choses, ma cousine est passée par là et elle a dû laisser en fait maintenant une lettre, décider de si elle laisse ses embryons fécondés, non, qu'elle n'utilisera pas, elle pouvait décider de qu'ils soient détruits ou de les garder, ou alors de les donner. Et si elle les donnait, il fallait qu'ils écrivent chacun un courrier en expliquant leur choix de pourquoi et que l'enfant à sa majorité puisse savoir. En Espagne, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment anonyme.
Et il puisse contacter aussi.
Je suis pas sûre. Je pense que c'est juste avoir une trace du parcours de pourquoi ils ont donné. Okay. Voilà, il y a pas encore trace de pouvoir ouvrir.
Mais donc toi, tu sais pas. C'est pareil. Donc toi, tu sais pas du tout.
Moi, en fait, j'ai donné
mes donneurs. Donc on a aucune.
Voilà. J'avais mes caractéristiques physiques.
Ok.
D'accord. Donc
voilà. Donc tu donnes quand même quelques critères. Tu peux quand même poser quelques.
La taille, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la peau, le type de peau.
D'accord.
Et après, c'est tout.
Et après.
Et c'est eux après qui choisissent dans leur banque de données. Et moi, j'ai aucun. Après, ce qu'ils peuvent juste voir, c'est vérifier au niveau de la compatibilité génétique.
Ouais, c'est ça.
Du donneur ou de la donneuse. Et la seule chose que j'ai su, c'était l'âge du donneur et de la donneuse pour le test trisomie.
D'accord.
Ils avaient quel âge alors, du coup?
C'était parce qu'à l'époque où j'ai fait le test, j'avais 40 ans. J'étais passée à 40. Et eux, ils étaient plus jeunes à tous les deux parce qu'ils avaient 19 et 20.
Ouais. Ah, d'accord.
Ah oui.
Donc eux deux, ça, c'était plus jeune.
D'accord.
Mais après en Espagne, en tout cas, il y a des endroits où, alors oui, il y a le côté financier quand ils vont donner,
quand
il faut leur don. Mais je pense que c'est culturel, contrairement en France où c'est dans la culture du pays de, c'est normal de pouvoir donner, que ça puisse bénéficier. C'est pas un côté que financier.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr.
On n'a pas encore en France.
Alors quand même, là, ça pose, je trouve, une question, tu vois, super intéressante. Donc, t'as pas d'idée de qui est le donneur. Qu'est-ce que tu vas lui répondre à Ella quand elle va te demander qui est son papa en fait? Parce que tu vois, dans les processus d'adoption, on sait que les enfants cherchent toujours à savoir à un moment donné d'où ils viennent, peut-être même parfois à rencontrer. Là, la rencontre sera impossible.
Comment... Bah en fait, c'est ce que je lui dis depuis qu'elle est bébé, d'expliquer que je souhaitais être maman, que je ne pouvais pas avec... Moi, j'ai essayé, mais qu'en tout cas, avec mes ovocytes, c'était pas possible. Et n'ayant pas rencontré quelqu'un, je suis passée par un don... en fait, elle a un géniteur et une génitrice. Et après, c'est moi sa maman, en fait. Mmh. Elle a pas de papa, parce qu'elle a, alors, peut-être, si je rencontre quelqu'un, peut-être que quelqu'un deviendra un papa d'adoption.
Un papa de référence, d'adoption, de cœur.
C'est un géniteur et une génitrice. Et après, moi, je suis sa maman. Enfin.
D'accord.
Donc, tu différencies bien les deux, en fait.
Oui. En fait, elle a un géniteur et une génitrice. Ouais. Et moi, par contre, je l'ai... Et après, voilà, le transfert fait que elle a décidé de s'accrocher. en tant qu'embryon, de s'accrocher dans mon utérus et de rester. Mon corps a décidé de la garder
de l'accueillir.
Donc en fait, pour moi, c'est choisi, en fait.
Ouais, enfin, bien sûr.
C'est... Est-ce que rappelons que tu as porté ton enfant?
Oui. On s'est choisi et après, voilà.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a aussi cette dimension-là qui nous échappe aussi un peu. J'aime beaucoup ce qu'elle a décidé de s'accrocher. Il y a aussi ce côté. Mais bon, voilà, moi, ça interpelle aussi. Tu vois, ça peut être quelque chose qui peut poser question pour les femmes qui aimeraient rentrer dans ce type de parcours, un peu comme le tien, de se dire comment on gère le trou, quoi. Tu vois, cette espèce de truc, même psychologiquement, tu vois, pour l'enfant, plus tard, est-ce qu'on a du recul là-dessus sur comment on grandit avec ça, avec juste un blanc
après,
dans le...
Je pense que les gens vont se poser la question... Parce que j'ai décidé d'être maman solo, mais est-ce qu'on la pose à quelqu'un qui se retrouve maman solo alors que parce qu'on l'a laissée, qu'elle a été abandonnée, qu'on l'a laissée, que le père a pas reconnu, voilà. En fait, je pense qu'il y a des questions qui se posent parce que c'est une décision prise, parce que j'ai décidé
parce
de prendre la décision.
Parce que c'est volontaire.
C'est ça.
Absolument.
Et qu'on posera moins la question à quelqu'un qui subit alors que finalement, on pourrait poser les mêmes questions et peut y avoir les mêmes conséquences ou d'autres.
C'est vrai. Mais oui, en cas de viol ou des cas de...
Oui, ça, des choses très dures.
Oui, absolument, absolument. Alors, si on revient, en France, il y a un autre chiffre qui interpelle, qui est celui des mamans solo, puisque depuis la loi bioéthique de 2021, les femmes seules représentent 53% des premières tentatives de PMA avec don de sperme. Est-ce que ça, tu l'as constaté, en fait, pendant ton parcours? Est-ce que tu as pu rencontrer d'autres mamans solo comme toi?
Oui, en fait, j'ai même été inspirée par une amie autour de moi qui plus âgée et qui est décidée de rentrer dans un process, dans ce process-là. Et je pense que si je me suis lancée, c'est aussi grâce à elle parce que elle a été un peu un exemple par rapport à son
parcours. Aussi maman solo, du coup.
Oui, mais pour le coup, elle a rencontré quelqu'un. Et donc maintenant, on se pose la question de c'est pas le papa et en même temps. L'enfant va dire papa et donc du coup il y a d'autres problématiques qui peuvent se poser aussi par rapport à ça parce que du coup c'est pas le géniteur
il assiste à l'accouchement etc.
Ils ont acheté une maison ensemble
Mais donc après c'est un peu ce qu'on peut observer justement famille, dans les processus d'adoption de famille recomposée et puis quand je te reconnais je considère que c'est mon papa quoi. Ouais.
Et vous étiez nombreuses en Espagne ou c'était plus des couples
Dans les salles, quand il y avait une salle d'attente, il y avait tout ça. On peut voir des couples. Après, les rendez-vous, c'était court, donc on n'avait pas forcément l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes par rapport à ça. Mais il y avait des femmes solo, des mamans qui étaient accompagnées comme moi par ma maman, d'autres qui venaient en couple.
Ouais, il y avait un peu.
Après, il y a aussi parce que là-bas en Espagne, ils font aussi l'espèce de lifting ovarien là pour pouvoir refaire pour pouvoir avoir un gagné en réserve des choses comme ça il y a des
ovarien
alors c'est quelque chose
pour
un peu de régénérer un peu
régénérer
un peu au niveau de sa réserve ou sur des choses
D'accord.
Après, la science fait qu'il y a peut-être des choses. Après, ça part loin, mais bon.
Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, on voit que clairement, là, suite au témoignage, là, que tu nous donnes, on se rend compte que c'est vraiment un parcours pas évident du tout, que ça demande beaucoup de courage, beaucoup de patience. Et, bien évidemment, donc, comme tu nous l'as dit, donc, tu es maîtresse. Entre 2022, 2024, donc, 2 années quand même de procédure, là, de PMA. Donc, c'est quand même lourd. Et pendant ces années-là, t'es toujours en activité, en fait, tu continues à travailler. Comment ça s'est passé en fait? T'as réussi à ménager les horaires? On t'a un peu soutenu avec tous les travaux, tout ça. Comment t'as réussi à gérer?
Au début, j'avais l'utopie de croire que j'arriverais à, comme c'était un peu les hormones au niveau de ce qu'on peut faire, de pouvoir aider que ce tombe sur les mercredis ou sur des week-ends. Et puis en fait, on se rend compte que
t'es obligé de prendre des jours.
Après, non. En fait, pour tout ce qui était rendez-vous des échographies. Obligatoire qu'on devait avoir tous les 2 jours. La prise de sang, j'y allais le matin. Et l'échographie, j'y allais sur le temps du midi. Ma mère m'accompagnait, elle venait me récupérer à l'école. On allait
Tu cours tout le temps,
à Deuil-la-Barre parce que c'est là où il y avait pour faire en plus des échographies au niveau de ovarienne en fait, parce qu'il n'y a pas forcément toutes qui ont par rapport à ça, sur des temps ou le soir. Et après, par contre, quand c'était la ponction, au niveau de l'éducation nationale, On a le parcours PMA qui est, on peut avoir des jours en fait où ça peut être pris comme une autorisation d'absence. D'accord. Donc je demandais une autorisation d'absence et j'ai, par contre, ce n'était pas dit que j'étais en Espagne, mais c'était demande de PMA avec ponction ou des choses et donc j'allais. Après c'était sous mes frais pour l'avion ou pour prendre au dernier moment avec des vols qui pouvaient changer parce que ça pouvait se décaler d'un jour ou deux des fois ou devoir rester une fois. J'ai dû rester plus longtemps.
Ouais, donc il a vraiment fallu que tu jongles.
C'est ça.
Entre le boulot, les dispos, trouver les bonnes spécialités, etc. Ouais, quel parcours. Bah écoute, merci beaucoup Aurélie. C'est le moment de faire une seconde pause musicale et on se retrouve juste après. À tout de suite.
Il y a plus d'amants. Il y a plus de lit. Finalement, tu vois, j'ai construit ma vie. Et le vide est grand, les questions aussi. Toi, tu vas comment? Est-ce que tu vois tout ici? Et j'ai bien changé, j'ai bien grandi. De toi, j'ai gardé tout ce qui fait qui je suis. Je fais mieux, je sais où. J'ai arrêté de compter les années. Et si je voulais arrêter le temps, maintenant c'est moi qu'elle appelle maman. Maman, maman, maman. J'ai trouvé l'amour. J'ai plus peur de rien. Et ça me fait comme avant, quand toi tu me tenais la main.
IDFM Radio, le média valdoisien. Nous sommes de retour sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière, l'émission qui met en avant des femmes inspirantes de notre territoire. Aurélie, jeune maman qui a décidé de faire un bébé toute seule, est notre femme en lumière du jour. Aurélie, depuis un peu plus d'un an, tu es l'heureuse maman d'une petite Ella. Tu as mené ce parcours de PMA pendant plus de 2 ans avec courage, patience et une force maternelle puissante. Finalement, en avril 2024, tu as reçu le plus beau des cadeaux, Ella. Raconte-nous ce premier instant, ce petit rien qui a changé tout en toi, dans ta vie de maman solo.
Je ne vais pas forcément parler de l'accouchement en soi, mais ça ne s'est pas forcément bien terminé après sur le fait que pour la sortir, tout ça, donc ça a été un peu avec le forceps.
Enfin, juste accouché en France ou en Espagne?
En France.
En France.
En fait, tout le suivi après était en France, les échographies, tout était en France. C'était vraiment que les stimulations. Enfin, après, on voyait la ponction, transfert. Sinon, c'était en France.
Ok.
Et en fait, la première chose, c'était Moi, c'était une grosse souffrance, mais c'était est-ce qu'elle va bien ? Et d'entendre pleurer ou de l'entendre, c'était bah elle est là, ça y est. Donc peu importe, c'est comme si moi j'étais passée déjà derrière et elle était là et c'était le ça y est, tout changeait. Enfin, c'était
c'était concret quoi.
C'était après concret, ans, magnifique ouais. Et après ils l'ont bah, le posé sur moi et tout. Enfin, c'était ça change tout et c'est après de se rendre compte que quand on dit instinct maternel ou d'autres choses, c'est le côté animal que j'ai découvert au début. Ouais. Le fait de sentir, d'avoir besoin de sentir son bébé ou ce côté où en fait, au tout début, avant d'être maman, c'est un peu côté, on est des mammifères et donc il y a le côté animal de, on est maman, mais ce côté de protection où s'il se passait quoi que ce soit, d'être aux aguets et d'être là, mais en mode,
c'est un instinct.
C'est ouais, ça, c'est l'instinct. Et après, c'est autre chose, mais c'est ce côté-là qui était ressorti au début et qui m'avait un peu marqué de me dire, c'est un truc physique, physiologique,
Un peu primitif.
Oui, là, c'est ça, ouais, primitif.
C'est étonnant, hein,
qui est présent, quoi.
Ouais, c'est et clair. Ta maman, donc, t'a accompagnée pendant l'accouchement, c'est ça?
Oui, c'est elle qui était, je lui ai demandé. Elle m'a accompagnée pendant le processus, elle venait avec moi en Espagne. Et elle est venue aussi, c'était naturel pour moi qu'elle soit là, pour l'accouchement. Elle a bien voulu parce que c'était aussi, il fallait qu'elle puisse, accepter de venir. Elle a souffert parce qu'elle m'a vue en souffrance, qu'elle a vu sa fille en souffrance sur des choses. Ouais, mais après, elle était aussi là en maternité parce que maintenant en France, on peut être, il y a qu'une seule personne, il n'y a plus de visite. C'est une fois qu'on est rentré, ils ont depuis Covid, depuis qu'il y a eu la Covid, plein de choses, ils ont tout fermé. Mais finalement, ça permet de une rencontre et c'est autrement. Mais bon, c'était bien aussi et elle m'a aidée après aussi sur les premiers temps pour
t'assister, avoir nuit,
pour assister ou. Okay. Et je pense qu'elle a même été plus efficace que parfois autour de moi quand je vois certains compagnons au niveau des débuts, tout ça. Et je pense que j'ai...
Qui tournent de l'œil.
Oui.
Ou qui ont du mal à trouver leur place aussi.
Ou des fois, c'est un deuxième enfant pour certaines amies. C'était pas forcément évident, la place et sur l'aide qui peut être amenée au début, en fait, en tout cas avec un nouveau-né.
Alors que là, bon, ta maman, elle sait de ce que, elle sait aussi ce que tu vis, donc elle a pu t'accompagner. Oui. De la plus belle des manières.
Et puis finalement c'est un peu une façon de faire un peu ancestral parce que avant je pense que ça doit être relativement nouveau que les hommes assistent aux accouchements en fait.
Ma mère quand elle a accouché toute seule.
Voilà, je pense que ça doit être même propre à notre culture ici occidentale parce que en vérité à travers les âges c'était un moment
on s'accouchait souvent de femmes en femme.
Voilà, femmes avec les femmes
exactement. Tout à fait. Alors, si on parle de conjoint ou de couple, tu nous as confié lors de nos premiers échanges qu'une relation avait failli voir le jour lors de ton parcours PMA, mais que le processus était si fort que la relation n'a pas pu aboutir. Comment tu apprivoises le couple aujourd'hui ? Donc, tu nous as confié être toujours maman solo, mais comment tu l'apprivoises ?
En fait, je pense qu'avant, c'était le couple était un peu la aurait permis pour être maman et maintenant que je suis maman, je pense que je suis plus finalement disposée à devenir femme et être en couple. Je sais pas comment expliquer mais
tu veux dire que tu t'es trouvée toi en tant que femme et que maintenant tu es prête à vivre à deux.
Oui. C'est ça que alors tu veux peut-être dire qu'avant le couple c'était
un instrument en fait.
C'était l'instrument pour devenir maman.
Dont tu avais besoin, ouais.
C'est bon. Je pense qu'inconsciemment, pas forcément consciemment mais vraiment inconsciemment et que maintenant je suis maman. Donc en fait, j'ai plus réussi, je pense, à m'ouvrir et à pouvoir rencontrer la bonne personne et être en couple.
Souvent, on dit, tu es passé d'une vision géniteur à la cerise sur le gâteau, finalement.
Ouais.
Celui que tu rencontreras.
Ben, c'est ça, peut-être, mais...
Et du coup, tu es ouvert à rencontrer quelqu'un?
Oui. Après, là, un enfant en bas âge, l'école,
c'est ça,
tout
ça. C'est ça.
Au niveau planning et emploi du temps, c'est compliqué. Mais en tout cas, je suis pas du tout fermée par rapport à ça. Voilà, je suis maman solo, mais je ne dis pas que je rencontrerai pas quelqu'un que Ella appellera quelqu'un papa. Dans l'avenir, voilà, c'est pas du tout fermé par ça.
Et là, du coup, tu te sens beaucoup plus disposée finalement à t'ouvrir à une vraie relation où il y aurait pas cet enjeu, cette attente finalement si forte qui parfois fait que en vrai, c'est pas la vie de couple qu'on recherche, c'est surtout voilà son aboutissement. Alors que là, ça sera là finalement, t'es ouverte à vivre une vraie relation juste pour la relation, quoi, en fait,
C'est ça.
Sans attendre derrière, mais quel bonheur. Parce qu'on voilà, au final. C'est aussi ça finalement, on s'aperçoit parfois qu'ils peuvent gâcher des relations, c'est qu'on y met plein d'attentes qui sont pas forcément en lien avec la personne en tant que telle. Donc c'est intéressant aussi.
Et la place quand on devient maman, d'être et maman, et femme, et soi, et des fois il y en a qui se perdent là-dedans
absolument,
aussi en fait.
Absolument, absolument, et là je trouve ça vraiment très intéressant, là ce que tu nous dis c'est, voilà ça y est maman je le suis là. C'est bon, ça c'est fait. Mm. Donc je peux reprendre ma place de femme, en fait aussi. C'est intéressant. Alors que souvent on peut avoir l'idée inverse de se dire, est-ce que je suis une femme, est-ce qu'il faut absolument que je sois maman. Enfin,
donc la société crée cette idée de cet ordre et.
Du coup, c'est intéressant. Et donc, c'est vrai que, forcément, alors on entend toujours dire que les mamans solo sont des super-héroïnes du quotidien, mais bon, ouais, super-héroïnes, parce que justement, on sait que c'est pas facile d'être seule à élever un enfant, qu'on l'ait choisi ou pas. Comment tu le vis ça, du coup, aujourd'hui, dans l'orga tous les jours?
Alors, j'ai plein de bienveillance autour de moi. J'ai des collègues les plus proches qui savent que je suis maman solo. Et après, j'ai pas trouvé que ça avait changé au niveau du regard ou des choses qui vont être faites. Après, j'ai des gens qui vont plus aider ou pas. Mais après, c'est au début. Puis finalement, après...
Chacun fait sa vie, quoi.
Voilà.
Et oui, puis t'as un rythme que tu prends, c'est ça que tu veux dire?
Oui, tu prends le rythme, comme tout à chacun. Et donc après, j'ai pas l'impression que ça, finalement, c'est quelque chose de... Je vis différemment je suis maman solo.
Est-ce que tu penses que le fait d'être maîtresse toi-même et donc d'avoir peut-être des horaires un peu plus adaptés que des personnes, tu vois, qui travailleraient dans le public avec « je finis à 19h, 20h du soir ». Là, 4h30, 17h, j'imagine que t'es à peu près...
Alors après, ce qui est compliqué, c'est que comme je suis enseignante, ça facilite sans facilité parce que je travaille le mercredi et après en fait j'ai des préparations. Donc en fait là où les horaires de bureau, des fois on arrive, on a des gros horaires et après on a
déconnecté.
Moi du coup j'ai toujours ce côté école en tête. Mais après, ça facilite parce que les vacances scolaires, le mercredi et après moi j'ai décidé d'être à 80%. Pour avoir une journée où Ella est à la crèche et moi je prends du temps pour moi. Au départ, c'était faire le ménage, plein de choses, et maintenant le ménage le fait quand elle est là parce qu'il faut qu'elle voit que ça se fait pas tout seul et qu'elle sache que et prendre du temps pour faire des choses moi et pour avoir l'école aussi et donc avoir le mercredi et le week-end moins dans l'école et plus à faire des choses avec elle.
Ok, voilà. Et donc du temps pour toi. Alors donc c'est quoi le temps pour toi? Comment tu t'y prends?
Moi c'est cinéma. Je suis beaucoup.
Ouais. D'accord.
J'aime aller au cinéma.
Ouais.
Après, ça peut être un peu sur Internet, regarder des sites, des choses, tout ça. Parce que en journée, c'est pas quelque chose. J'ai pas l'ordinateur, rien de tout ça. Regarder des séries le soir.
Ok.
C'est assez de manière habituelle quand t'es couché, mais voilà.
Ok, d'accord. Donc en fait, voilà, t'arrives aujourd'hui à t'organiser suffisamment, correctement bien, et trouver du temps pour aussi laisser la place à tes passions. Et alors, tu nous parlais donc de cette idée de ton ouverture, au couple. Pourquoi pas? Est-ce que quelque chose survienne? Alors, on sait qu'il y a plein d'applications, applications de soutien des mamans solo. Il y a Pop Moms qui existe comme application. Il y a des applications de rencontres aussi entre parents célibataires, comme Even. Est-ce que tu as déjà testé ces applis?
Non, j'avais testé en amont des applis de rencontres, mais pas les YoMoms. J'avais eu via la boîte rose. Sur des sites, mais
là on est vraiment sur des applis tournées autour des parents solo,
mais
quoi.
Non, pas encore, non.
Il faut savoir que PopMum, c'est vraiment une application où en fait tu peux être en relation avec des mamans de ton quartier et avoir des soutiens de garde, pour les courses, etc. Donc c'est assez intéressant. Enfin, toi qui connais pas, et Even, c'est une application de rencontre qui est écrite par Mythic.
D'accord.
Donc vraiment, ils se sont rendus compte qu'il y avait une grande niche de parents célibataires, donc plusieurs millions en France. Ils se sont dit, allez, on va les faire se rencontrer. Donc,
d'accord.
Si jamais tu es amenée à les tester, on serait ravis d'avoir ton retour.
Pas de souci. Ben voilà, sujet. après le bébé PMA, on pourrait avoir le papa sur le site,
sur
le papa appli. Ça peut être rigolo. Bon, merci beaucoup Aurélie en tout cas pour tous ces échanges. C'est le moment de faire une dernière pause musicale. On va écouter Beyoncé et son titre Single Ladies et on se retrouve juste après pour l'interview Confidence Spotlight. À tout de suite.
Club, just broke up. I'm doing my own.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr. Aurélie, après cette chanson qui booste et qui fait du bien, entrons désormais dans les coulisses de cette single mom que tu es. C'est l'interview Spotlight qui commence. Es-tu prête?
Oui.
Alors c'est parti. Aurélie, quel est le moment de la journée que tu préfères?
Je vais dire quand je récupère ma fille à la crèche et qu'elle vient à moi maintenant.
Et qu'elle court, ça,
et qu'elle court dans les bras.
Super. Si tu devais nous donner la recette de ton plat doudou, celui qui console tout, ce serait lequel?
Les spaghettis à la carbonara.
Oh, délicieux.
Mais en mode européen, enfin française.
À l'arrache, quoi.
Non, c'est avec la crème.
Mais non, mais non, mais non, le sacrilège.
Moi, je valide, je mets aussi la crème.
Mais non.
Bien sûr.
Aïe.
Plutôt gruyère, parmesan.
Gruyère.
Ou mozzarella. Oui.
J'ai envie de dire à la française. T'as bien raison. Alors, quelle est cette appli? On parlait d'application tout à l'heure. Et quelle est cette appli que tu ouvres beaucoup trop souvent?
Instagram.
Mm-hmm. Et alors, qu'est-ce que tu nous regardes sur Instagram?
J'ai des acteurs, actrices que je suis, donc je vois un peu. Et sinon, après, il y a les fils, là, voilà, qui passent. Et on se retrouve à regarder des vidéos d'humoristes ou d'autres choses. Et en fait, on est un peu happé dedans. Donc, j'essaie de ne pas rester trop. Mais...
Aïe, aïe, aïe. Ouais, tu dirais combien de temps?
Instagram? Par jour? Bon, on va dire une heure.
Ah, ouais. Ah, ça va vite. Hein.
Quand même, hein, ça va vite.
Mais la moyenne, c'est 2 heures. Hein. La moyenne. La moyenne sur Instagram et Facebook, c'est 2 heures par jour, t'imagines ?
Ouais. Okay. Ouais. Allez, quatrième question Spotlight. Aurélie, quelle est la plus belle chose qu'on t'ait dite ?
La plus belle chose qu'on m'ait dite ? C'est dur.
Petite, maintenant, maman, pendant ton process ou à l'école ?
Moi, je vais dire le premier maman.
Ah oui. Ah, c'est beau.
Le premier maman, bah oui. Alors, si tu étais un film ou un livre, lequel serais-tu? Alors, peut-être un film, du coup, vu que tu es passionnée de cinéma.
Un film avec le parcours. Après, j'ai plus, genre, les chansons, je pourrais dire.
Choses, mais... Allez, alors on peut ouvrir aux chansons.
Bien
si
sûr. Chansons, je vais dire de Jean-La Goldman, il y a Changer la vie. Okay. Ça parle de professeur et de...
Voilà, de Changer genre. La vie, ouais. Ok. Et un film, vu que t'es cinéphile, c'est comme ça.
Après, film, mais... parce qu'il y a... Je vais mettre N'oublie jamais, The Notebook.
Ok. Très beau film.
Ça marche. Et quel est le dernier truc que t'as fait rien que pour toi?
Je crois que c'était mettre du vernis. sur mes orteils. Parce que vous pouvez pas avec la grossesse. Moi, je voulais pas en mettre tout ça. Et après, c'était là l'été. Il fait beau et ressortir.
Ah là là, mais ouais, c'est ça. Parfois, il y a des petites choses, des petits détails comme ça. Ben oui.
De prendre soin. Il est quelle couleur le vernis?
Ben là, faut que j'en mette parce que j'avais enlevé, mais il était un peu orange corail.
Sympa, un peu.
Bien flashy.
Exactement.
Voilà, bien lumineux. Ben oui.
Bah merci beaucoup en tout cas Aurélie d'avoir joué le jeu de la confidence. Notre émission touche à sa fin. Et pour la clôturer, qu'aimerais-tu dire à une femme qui hésite aujourd'hui à faire un bébé toute seule par peur d'être dépassée, jugée ou isolée?
Bah, faut pas hésiter. Si on a envie d'être maman, tu mets de l'argent de côté ou tu vois en France, t'es bien entourée de gens qui vont vraiment t'accompagner et pouvoir être là pour toi parce que... Il faut quand même pouvoir être entouré un minimum et il faut se lancer. Parce que la société a changé et je pense que le regard des gens n'est plus le même que les sénateurs qui prennent des décisions là qui ont plus de 70 ans et que maintenant la société évolue et que la famille, l'image de la famille aussi, c'est pas une famille, c'est pas forcément un papa, une maman et ça, tout a évolué donc il faut pas hésiter.
Eh bien voilà un témoignage extrêmement puissant. Merci infiniment Aurélie pour ce partage. On te souhaite vraiment le meilleur pour la suite avec ta petite Ella. Notre émission se termine. Un grand merci à nos auditeurs auditrices de nous avoir accompagnés. Et on se retrouve sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière, mardi prochain, de 18h à 19h, en compagnie d'une nouvelle femme inspirante. En attendant, vous pouvez bien sûr retrouver l'interview d'aujourd'hui en podcast sur le site didfmradio.fr, sur l'Instagram des Femmes en Lumière et sur notre chaîne YouTube. Encore merci Aurélie.
Merci à vous.
Et
merci.
À la semaine prochaine Laetitia.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
I've been up a couple of days, I wonder why. I've been living in a haze, what a foolish life. Now I'm back out on the pavement, don't know why. I should be dancing, I should be dancing the night away. I wish I was a disco boy, disco boy. Moving like I'm paranoid, paranoid. I wish I was a disco boy, disco boy. I should be dancing the pain away, the pain away. I'm gonna wear my favorite color tonight. Gonna shake it like the thunder tonight. All my dreams up in my head. How far can I get? I hope it's not too late to find. 'Cause I feel like I've been blowing under tonight. All my, I've been up a couple of days, I wonder why. I've been living in a haze, what a foolish life. Now I'm back out on the pavement, don't know why. I should be dancing, I should be dancing the night away. I wish I was a disco boy, disco boy. Moving like I'm paranoid, paranoid. I wish I was a disco boy, disco boy. I should be dancing the pain away, the pain away. Gonna wear my favorite color tonight. All night. I'm gonna shake it like the thunder tonight. All night. Dreams up in my head. How far can I get? I hope it's not too late to find. 'Cause I feel like I've been blowing under tonight. All night. I wonder why I've been
living in a haze, what a foolish life. Now I'm back out on the pavement, don't know why. I should be dancing, I should be dancing the night away. I wish I was a disco boy, disco boy. Moving like I'm paranoid, paranoid. I wish I was a disco boy, disco boy. I should be dancing the pain away, the pain away. I should be dancing, I should be dancing. I'm gonna wear my favorite color tonight, oh my. I'm gonna shake it like the thunder tonight, oh my. I wish I was a disco boy, disco boy. Moving like I'm paranoid, paranoid. I wish I was a disco boy, disco boy. I should be.